magazine des Nations Unies.
Bonjour à tous et bienvenue à ce magazine des Nations Unies dont voici les principaux titres. Ceux qui ont sauvagement tué des personnes dont les corps ont été découverts dans des villages de la collectivité de Rwenzori sont des criminels de basse échelle, ils doivent répondre de leurs actes. C'est ce qu'a déclaré le commandant des forces de la MONUSCO, le général Dos Santos Cruz. Il sera l'invité de ce magazine. Notre nouvelle de province nous emmènera au Nord Kivu. Plus de 3000 cas de viols y ont été enregistrés au premier semestre de l'année 2013, selon un rapport du groupe de travail en charge de base des données et de cartographie des violences sexuelles. Ce groupe est constitué notamment du Fonds des Nations Unies pour la population. Entre-temps, des réfugiés centrafricains affluent à Zongo dans la province de l'Équateur. La dernière vague massive a franchi le territoire congolais lundi dernier, comme le confirme le HCR dans notre actualité de la semaine.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Encore une fois, bonjour. Au moins 21 corps ont été retrouvés le week-end dernier dans les villages de Moussoukou et Mwenda, collectivité de Rwenzori en territoire de Beni. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. La plupart des victimes, surtout des femmes, ont été tuées avec une rare brutalité. Trois filles mineures auraient même été violées avant d'être décapitées. Le représentant spécial du secrétaire général en RDC, chef de la MONUSCO, a désapprouvé ces actes. Ces atrocités ne resteront pas impunies. Les auteurs ne connaîtront pas de répit tant qu'ils n'auront pas répondu de leurs actes devant la justice, a déclaré Martin Kobler. Message relayé par le commandant des forces de la MONUSCO, le général Dos Santos Cruz. Suivez.
Nous allons immédiatement déployer des troupes, mais nous allons aussi rester en étroite collaboration et en coopération avec les FRDC, avec la police nationale congolaise, pour essayer de recueillir le maximum d'informations sur ces gens qui ont commis ces atrocités. Parce qu'il est très important pour que ces criminels répondent des actes qu'ils ont commis contre les populations civiles dans cette zone-là. Ce sont des criminels de basse échelle qui n'ont aucune considération pour les principes mineurs de la vie humaine. C'est pour cela que nous allons mener ces opérations. Pour la mémoire des Congolais, il est important que nous menons des actions contre ces gens, que nous allons contre ces gens-là pour faire respecter au moins la dignité.
Le commandant des forces de la MONUSCO, le général Dos Santos Cruz, sera un autre invité dans un instant. La Commission nationale pour les réfugiés, CNR, a lancé les opérations de pré-enregistrement des réfugiés rwandais vivant au sud Kivu, jeudi dernier à Bukavu. La Commission estime à 20 000 les réfugiés rwandais encore présents sur le sol congolais au sud Kivu, alors que 63 000 ont été rapatriés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en collaboration avec la CNR. L'opération de pré-enregistrement devrait se dérouler dans les 8 territoires durant 20 jours. Elle a débuté hier, selon le ministre provincial de l'Intérieur. Par ailleurs, à l'Équateur, on assiste à l'afflux des réfugiés centrafricains vers Zongo. Malgré la fermeture de la frontière par les autorités de Bangui lundi dernier, plus de 1800 autres centrafricains fuyant l'horreur dans leur pays ont atteint le territoire congolais. Céline Schmitt, chargée des relations extérieures au bureau régional du HCR Kinshasa, a vu ce défilé ferlement sur le terrain à Zongo, comme elle l'a déclaré au micro d'Honorine Singakalala.
Ils ont traversé la rivière Ubangi depuis Bangui, malgré la fermeture de la frontière du côté de la République centrafricaine. Il s'agit surtout de femmes et d'enfants qui disent fuir l'horreur, la violence et les exactions à Bangui. Ces personnes qui traversent font preuve d'énormément de courage, puisqu'elles nous disent qu'elles risquent d'être tuées en traversant. Mais malgré cela, elles font le choix de traverser pour chercher la sécurité et la protection à Zongo. Nous essayons de gérer la situation avec nos partenaires, mais effectivement, il nous faut plus de ressources aussi pour pouvoir gérer cette situation, pour pouvoir accueillir les gens quand ils arrivent, leur donner un abri d'urgence, leur donner un repas chaud, et ensuite pouvoir les relocaliser vers le camp de Moli.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Au ONU Avec Nous ou en anglais UN Cares est un programme commun de lutte contre le VIH-Sida au sein du système onusien à travers le monde. Duvert Kilembe, coordonnateur régional de ce programme pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, était de passage en RDC dans le cadre de la campagne de sensibilisation au VIH-Sida, une campagne organisée en marge de la Journée internationale de lutte contre le Sida. Il explique en quoi consiste ce programme ONU Avec Nous, son fonctionnement et son historique. Duvert Kilembe répond aux questions de Jean-Pierre Elali Coco.
Duvert Kilembe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en visite ici à Kinshasa. Est-ce que nous pouvons connaître l'objet de votre visite?
Merci. En tant que coordonnateur régional UN Cares, j'ai en fait la tâche de superviser ou de coordonner toutes les activités qui sont menées dans le cadre de la lutte contre le VIH en milieu de travail des Nations Unies. Et donc ceci m'amène en RDC pour pouvoir faire un suivi de ce qui se fait, mais aussi essayer d'appuyer sous place l'équipe UN Cares dans ce travail, en menant un plaidoyer auprès de la direction et du cadre, de manière à allouer un peu plus de moyens à cette lutte-là au sein du système des Nations Unies en RDC.
Alors, l'initiative ONU Avec Nous est lancée. Est-ce que nous pouvons connaître un peu son objectif?
Avant de parler peut-être de l'objectif, je peux dire d'où il vient. C'est en fait depuis 1991 que, devant l'ampleur du VIH, les Nations Unies ont pris conscience du fait qu'il fallait protéger leur propre personnel. Donc en 1991, une politique de lutte contre le VIH à l'interne avait été mise en place, donc au bénéfice du personnel. Et sur base de cette politique, certaines agences des Nations Unies ont mis en place des programmes pour mener la lutte pour leurs agents. Mais en 2008, une mise en commun a été suggérée par le secrétaire général qui a lancé en fait le 6 mai 2008 UN Cares, qui est un programme commun aux conjoints. C'est en fait une mise en commun de moyens financiers, matériels, humains au sein des Nations Unies pour constituer un programme de lutte contre le VIH pour l'ensemble du personnel et pour leurs familles, et ce, dans tous les endroits où se trouve le personnel des Nations Unies.
À son lancement en 2008, comme vous l'avez dit, ce programme visait 10 normes, donc jusqu'en 2011. Et quelles sont ces normes diverses?
Oui, ces normes sont encore aujourd'hui d'actualité. C'est en fait en cela que se résume même notre travail, c'est veiller à ce que dans chaque pays où existent les Nations Unies, où ces normes puissent être à leur bénéfice. Alors la première norme, en fait, c'est l'accès à l'information sur les politiques d'abord, ainsi que les prestations des Nations Unies.
C'est-à-dire que si je comprends, les prestations, ce sont des services.
Exactement, il faut ici que le personnel connaisse la politique qui concerne le VIH en milieu de travail, mais aussi sache quels sont les services auxquels ils peuvent avoir accès.
Parmi ces normes-là, on cite aussi la discrimination ou stigmatisation. Et comment lutter contre la stigmatisation dans le milieu des Nations Unies?
Je vais commencer peut-être parce que là, c'est la norme numéro 3. Parler de la première norme, je voudrais parler de la deuxième norme qui concerne l'accès à l'information sur la prévention de la transmission du VIH et l'accès justement aux services. Alors ici, tout le personnel en principe doit connaître les mode de transmission, avoir une idée sur les connaissances de base en fait, connaître les modes de transmission ainsi que le moyen de prévention.
Ça c'est l'accès à l'information.
Ça c'est, oui, l'accès à l'information. Au départ, c'est la première norme concerne l'accès à l'information sur les politiques et les prestations. La deuxième, l'accès à l'information sur le VIH. Voilà, tandis que la troisième norme justement parle des activités d'apprentissage et de formation, encore une fois de plus, sur la stigmatisation et la discrimination. Donc ici, il s'agit des mesures qui sont mises en place pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination. Dans un mettant à travers les activités de formation ou d'orientation qui sont proposées au staff, nous parlons déjà de la lutte contre la stigmatisation. Donc tous ceux qui sont formés, nous leur expliquons comment et pourquoi ils doivent lutter contre la stigmatisation et la discrimination. Et maintenant, s'il faut parler des milieux qui sont mis en place, je dois vous dire que d'abord, nous visons à ce que les milieux de travail des Nations Unies soient un environnement exempt de la stigmatisation et de la discrimination. Et pour cela, nous avons des mesures que je vais énumérer qui ont été mises en place en ce qui concerne par exemple le dépistage. Lorsqu'il est fait au sein des Nations Unies, dans nos services médicaux et autres, il y a la confidentialité qui est de mise. Le personnel médical donc signe un document qui en fait les engage, qui les oblige à être confidentiels par rapport à tout le travail qu'ils font. Donc lorsque vous avez passé un test, en aucun cas cette information ne peut être divulguée ou transmise à quelqu'un d'autre sans votre consentement.
Alors, divers, comment on peut étendre toutes ces mesures que vous venez de citer dans d'autres milieux professionnels? personnels ici en République démocratique du Congo.
Déjà, ayant travaillé dans ce pays, je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives qui avaient été mises en place dans différentes entreprises et à travers notamment le PNMLS en ce qui concerne le milieu du travail. Il y avait notamment ici le CIEL, si je ne sais pas s'il existe encore, qui regroupait les entreprises dans la lutte contre le VIH/SIDA. Nous avons toujours eu à travailler avec cette organisation, notamment à travers les entreprises membres pour mettre en place des politiques, mais aussi les aider à mettre en place des mesures qui puissent contribuer à cela.
Une dernière question du verre. Maintenant, quel est l'état de la recherche?
Oui, la recherche, en fait, se poursuit en matière du VIH. D'ailleurs, le mois prochain, nous avons en Afrique d'ici une conférence internationale qui concerne en fait le VIH et les infections sexuellement transmissibles, qu'on appelle ICASA. Et là, nous aurons justement l'occasion d'écouter des grands chercheurs qui vont nous parler du niveau qu'ils ont atteint actuellement. Donc, à cette occasion, vous nous aurons sûrement des informations un peu plus fraîches de la bouche directe de personnes concernées, des chercheurs. À ce niveau, ce que je peux vous dire déjà, c'est que c'est vrai, ces gens continuent à travailler. Il y a des pays vraiment qui investissent beaucoup dans la recherche.
Donc, il y a de l'espoir.
L'espoir est toujours là. L'espoir est toujours là. Nous croyons que demain, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui, c'est dans combien d'années. Mais lorsque nous voyons l'évolution, au début, dans les années 80, lorsqu'on parlait du VIH, on voyait la mort. Vous savez que tout était même représenté en rouge. On disait VIH mort. Mais aujourd'hui, quand on parle de VIH, on parle d'antirétroviraux, on voit un peu cette survie-là. Mais la recherche se poursuit aussi en ce qui concerne notamment un vaccin. Donc, les chercheurs poussent encore pour obtenir un vaccin, pour ne pas seulement chercher à guérir, mais déjà essayer de bloquer ou d'empêcher la transmission du VIH.
Divers, un nouveau remerciement.
C'est moi qui vous remercie.
Les nouvelles en bref commencent par le volet humanitaire. 13 tonnes de vivres au bénéfice de 745 femmes, chefs de ménage à Katana, en territoire de Kabaré au sud Kivu. Il s'agit, selon Ocha, d'une assistance du programme alimentaire mondial distribuée le 17 décembre en collaboration avec l'ONG Horizon Nature. En plus de ces vivres, les bénéficiaires suivent aussi une formation professionnelle de 6 mois. La formation consiste en la fabrication des foyers améliorés et de briquettes. Ces femmes sont considérées comme les vulnérables et victimes des conflits armés, souligne la même source. Une centaine d'étudiants de la faculté d'économie de l'Université catholique du Congo ont été édifiés mercredi dernier sur un projet de développement de l'ONG CEPAD, Congo, Paix et Action pour le Développement. Projet financé par la MONUSCO en faveur d'une cinquantaine de femmes et de jeunes filles des milieux défavorisés de Kinshasa. Ce projet a consisté en la formation de ces femmes et jeunes filles en informatique, anglais, marketing et coupe et couture. Lord Nassou de la division des affaires économiques à la MONUSCO qui a encadré l'ONG CEPAD dans l'exécution de ce projet, a tenu à partager cette expérience avec les étudiants de l'UCC, notamment sur sa durée, ses objectifs, son budget, sa mise en exécution et son impact socio-économique. Une soixantaine de journalistes correspondants des radios locales en formation simultanée du 19 au 21 décembre à Kasumbalesa, Mwanda, Kimpese et Kenge. Ces formations ont été assurées par l'UNESCO dans le cadre du projet Renforcer les radios locales par le biais des technologies de l'information et de la communication, un projet financé par le gouvernement suédois et exécuté par l'UNESCO.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Comme annoncé dans le sommaire, le général Dos Santos Cruz, commandant des forces de la MONUSCO, est notre invité de ce dimanche. Il parle des mesures prises au lendemain de la découverte d'une vingtaine de corps des personnes sauvagement tuées par les ADF Nalu en territoire de Beni au nord Kivu. Le général répond ici aux questions de Jules Ngala. Ses propos sont traduits par le colonel Félix Bass, porte-parole militaire de la MONUSCO.
Mon général, vous êtes à Goma. Vous avez entendu faire appeler les collaborateurs du secteur. C'était pour leur transmettre quel message exactement?
The message is that we need to work together with all the Congolese institutions.
Le message que j'ai adressé aujourd'hui à mes collaborateurs, c'est de pouvoir travailler en parfaite synergie avec les autorités congolaises pour essayer de mettre un terme aux souffrances des populations civiles qui vivent ces atrocités, ces exactions depuis très longtemps pour ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo.
Mon général, ces populations civiles remercient les casse-bleus de la MONUSCO d'avoir contribué à la victoire des FARDC. mais elle se demande quels sont les défis maintenant à relever. Le M23 est vaincu, qu'est-ce qu'il reste à faire?
We had opportunity to support FARDC.
Nous avons eu l'opportunité de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo lors de leur offensive contre le M23 ici jusqu'à Bunagana parce que les forces négatives étaient proches de la ville de Goma.
And now we continue with this coordination.
Nous poursuivons notre coordination et notre coopération avec les forces armées de la République démocratique du Congo parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de groupes armés qui sont encore ici à l'Est, notamment l'ADF, le FDR, le FRPI. Donc, nous poursuivons notre action pour mettre un terme aux activités de tous ces groupes armés.
Mon général, vous avez parlé vous-même de l'ADF. Ce groupe est à la base de la mort de plus de 20 personnes dans le nord de la province, à Beni, justement. Qu'est-ce que vous comptez faire face à ce groupe?
Yesterday, we had this very sad information.
Hier, nous avons reçu l'information concernant justement la mort de 23 personnes qui ont été massacrées par ces criminels de l'ADF Nalu. C'était une nouvelle très triste.
The level of violence they used against
le niveau de violence qui a été perpétré contre ces femmes et ces enfants est inacceptable pour toute personne normale concernant justement ces massacres qui ont été perpétrés par les éléments de l'ADF Nalu.
It is not possible to understand.
Il est difficile de croire qu'ils ont un minimum de sens humain. Ce niveau de violence nous révolte tous, mais aussi révolte toute la société entière. J'ai même des scrupules à répéter les violences qui ont été commises contre les femmes et les enfants.
Oui, immédiatement.
Nous allons immédiatement déployer des troupes, mais nous allons aussi rester en étroite collaboration et en coopération avec les FRDC, avec la police nationale congolaise, pour essayer de recueillir le maximum d'informations sur ces gens qui ont commis ces atrocités.
Because it's very important that these criminals they pay to the Congolese society.
Parce qu'il est très important pour que ces criminels répondent des actes qu'ils ont commis contre les populations civiles dans cette zone-là. Ce sont des criminels de bas échelle qui n'ont aucune considération pour les principes mineurs de la vie humaine. C'est pour cela que nous allons mener ces opérations.
We need to do the maximum possible.
Pour la mémoire des Congolais, il est important que nous menons des actions contre ces gens, que nous allons contre ces gens-là pour faire respecter au moins la dignité humaine.
Mon général, merci.
Merci beaucoup.
Restons au Nord Kivu pour notre nouvelle en province. Nous l'avons dit dans le sommaire, plus de 3000 cas de viol ont été enregistrés au cours du premier semestre de l'année qui s'achève dans la province, soit le double de l'année dernière. Les territoires les plus touchés sont Rutshuru, Lubero et Masisi. Sifa Maguru nous en parle avec plus de détails. Suivez.
Ce tableau des violences sexuelles basées sur les genres au Nord Kivu démontre qu'entre janvier et juillet 2013, 3172 cas de viol ont été rapportés. Parmi les victimes, 45% des mineurs, la tranche d'âge concernée par l'enquête variant entre 2 à 80 ans. Ce rapport a été rendu public récemment par le ministère national du genre Femmes et Enfants. Pour ces groupes, ce tableau indique aussi une augmentation en double des cas par rapport au premier semestre 2012. Parfait Chaba, des UNFPA Nord Kivu, revient ici sur les causes et les recommandations.
Il y a des femmes, des filles et même des enfants qui subissent les violences sexuelles du fait de la présence de groupes armés. Même dans les zones relativement stables, ces violences n'ont pas baissé, ce qui induit à conclure que le phénomène a tendance à se socialiser. Il y a des actions à mener à divers niveaux, juguler l'insécurité, mais aussi promouvoir les statuts de la femme pour que son droit soit respecté.
La publication de ces rapports a pour objectif d'informer les décideurs ainsi que l'opinion sur la situation afin qu'ils prennent conscience, mais aussi d'orienter les actions dans le cadre de la lutte contre les violences liées au genre dans la région. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Alain Alamé, je travaille pour Hope Channel Télévision à Goma. dans la partie nord de la province du Nord Kivu, à Beni, à Nobili, on signale plus de 150 000 déplacés de suite de combats de ADF Nalu. Quelles sont les dispositions que vous prenez pour venir en assistance rapide? D'abord, en tant que MONUSCO, pour faciliter les humanitaires. La question vaut également pour Sylvestre Toumba, à partir de Kinshasa, qui puisse nous dire quelles sont les dispositions pour venir en aide à ces populations pendant que PAM, actuellement, ne travaille pas comme avant. Merci.
Question posée à partir de Goma au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Écoutez les réponses de Martin Kobler, chef de la MONUSCO, et de Sylvestre Ntumba, chargé de la communication au bureau Ochoa RDC Kinshasa.
C'est un problème très très important. Alors il faut éliminer les causes profondes et c'est l'élimination à la fin du jour alors de l'ADF. On a éliminé les forces de l'ADF, ces problèmes humanitaires n'existent plus. Nous avons nos humanitaires, ils voudraient bien avoir accès, nous avons nos troupes, on va faire quelque chose pour eux. J'ai moi-même visité hier les déplacés de LRA. C'est une chose qui n'est pas acceptable. Alors on a des millions de déplacés internes, de réfugiés ici dans le pays, il faut adresser aussi les causes profondes. Vous savez, nous sommes concentrés maintenant, nous nous concentrons sur le combat contre les FTLR. C'est juste, mais on ne néglige pas les autres parts du pays.
Par rapport à ce que venait de dire le représentant spécial, je vais juste ajouter une petite chose. C'est vrai qu'on a des informations, mais vous savez aussi que chaque fois qu'on a ce genre d'informations, nous devons d'abord procéder à une évaluation de la situation, identifier le nombre exact de personnes touchées afin de déterminer les besoins et ensuite apporter l'assistance. Et il y a toujours cette dimension de la sécurité dans la zone pour nous permettre l'accès aux personnes vulnérables. Quand ces conditions sont réunies, on apporte l'assistance. Et peut-être par rapport à ce qui a été dit concernant le PAM continue à porter assistance aux personnes vulnérables, ce qui vous a été dit est que les moyens sont réduits. Il y a des programmes qui ont été réduits à leur strict minimum, mais le programme alimentaire mondial continue quand même à porter, dans la mesure du possible et des moyens disponibles, l'assistance aux personnes vulnérables.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Je m'appelle Genigma Samakiluto. Je suis administrateur associé de protection et de réintégration du SR ici. Je suis marié, père de deux enfants. Ma formation initiale, je suis juriste avec une spécialité en droit de l'homme et en droit de l'environnement. Je travaille là au SR depuis 6 ans et demi déjà. J'ai commencé comme assistant de protection à mon pays, au Tchad, et j'ai pu avoir l'opportunité de continuer cette activité avec l'OSCR ici dans la République démocratique du Congo. D'abord dans la province du Nord Kivu, territoire de Masisi, dans lequel j'ai passé 2 ans et demi comme administrateur associé de protection et j'assumais également l'intérim du chef de bureau pendant cette période-là. En tant qu'administrateur de protection, la principale charge, c'est de s'assurer que les droits des personnes qui relèvent du mandat de l'organisation, c'est-à-dire du OSCR, sont respectés. Au fait, avant d'arriver dans l'agence, j'étais d'abord étudiant, parce que l'OSCR, c'est mon premier employeur. Dès que j'ai fini mes études en 2006, j'ai été recruté par l'OSCR 6 mois après. Mais avant ces 6 mois, le travail que j'ai eu, c'était des petits travaux, donc une petite consultance avec le programme des Nations Unies dans la rédaction des rapports périodiques du pays, les rapports initiaux et les rapports périodiques. Ça, j'ai pu faire ça avec le PNUD. Et puis, ce que je pourrais aussi ajouter avant de commencer avec l'OSCR, c'est un peu la vacation à l'université d'Abéché, où j'ai été chargé de quelques cours de droit à l'université. Ça, c'est 2 activités que j'ai eu à faire avant d'intégrer le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Comment je gère mon temps libre? Là, j'ai en mémoire le fait que je ne sais pas à quelle heure commence la journée, quand finit la journée. c'est difficile de pouvoir expliquer ça. Mais lorsque j'ai l'opportunité de temps en temps, c'est une heure, deux heures qui me permet d'être libre, j'aime suivre les films pour me vader un peu. Actuellement, Bouburu, par exemple, j'ai trouvé un passe-temps favori qui est le jeu de Scrabble. Parce que j'ai trouvé qu'il y a aussi beaucoup de joueurs de Scrabble ici. Et lorsque le temps le permet, avec les collègues, on essaie un peu de s'adonner à ça pour passer un peu de temps. Puis j'aime beaucoup la musique et j'aime danser également. J'aime beaucoup la musique congolaise. Dans les mains, j'aime beaucoup plus les légumes. J'ai appris à manger le pondou ici, les zamaran, les lingalinga, tout ça. Donc ça, c'est j'ai apprécié hein, dans la cuisine congolaise. Hein. Projet d'avenir, je voudrais bien avoir cette opportunité de travailler pour l'OICR. Non seulement elle m'a donné l'opportunité de me perfectionner dans le travail, non seulement elle m'a aussi donné les possibilités de découvrir du monde, de découvrir les facettes de ce travail, mais j'ai finalement pris du goût dans ce travail. Ce travail qui nous permet de pouvoir, tant soit peu, donner le sourire à une personne qui a besoin d'une assistance, de pouvoir s'assurer qu'une personne a accès à ses droits, de s'assurer qu'un enfant a pu être réunifié avec ses parents, ceux qui ont besoin de protection, ceux qui ont manqué de protection, ont pu recouvrir cette protection-là et peuvent reprendre leur vie. J'aimerais bien continuer ce travail-là et ça sera avec beaucoup de plaisir si Dieu me permet de pouvoir continuer ce travail avec l'OICR.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Un rendez-vous à retenir la semaine prochaine et que nous propose la CPI, c'est la finale du concours interuniversitaire de plaidoirie en droit international humanitaire prévu à Kinshasa le samedi 28 décembre. Cette finale va opposer trois universités, l'université de Kinshasa, l'université catholique de Bukavu et l'université de Kisangani. Il faut noter que ce concours a pour objectif de promouvoir les connaissances sur la lutte contre les crimes internationaux. Il permet aussi de mieux faire connaître le fonctionnement et les procédures de la Cour pénale internationale. Le rendez-vous est donc pris et on verra à quelle université reviendra la palme. La fin de ce numéro du magazine des Nations Unies, présenté par Mila Kimwini avec l'assistance technique de Dieudonné Nyangasa, supervisé par Nicole Ngaka, coordonné par Honoré Missinga. Vous pouvez également retrouver le magazine sur le site internet de la radio, radiocapi.net. Envoyez-nous vos suggestions, vos questions ou vos remarques en postant un commentaire en dessous de l'émission sur radiocapi.net ou en appelant et en écrivant un message, si vous le voulez, au 082 30 76 630. 082 30 76 630. Rendez-vous la semaine prochaine. Excellente journée dominicale à tous et surtout, bonne fête de Noël.